Bienvenue dans Impact Positif. Je m'appelle Sylvia Micon et je suis ravie de vous accompagner, le temps de vous faire découvrir un parcours, une démarche, une personnalité. Pour ce podcast, une seule promesse, donner la parole à celles et ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer, protéger la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur approche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre ? Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous.
Cette initiative Ticket for Change, elle nous a dépassés parce que le but, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux gens. Et donc, par essence, on crée des pédagogies pour que chacun trouve son potentiel, l'active et agisse sur des grands enjeux de société. Et du coup, on a créé une fabrique acteurs de changement qui nous a dépassés parce qu'un peu partout sur les territoires, des formidables histoires se sont mises en mouvement. Donc ça, c'est de la fierté et en même temps, se dire que le monde, il n'a pas forcément avancé dans le bon sens pendant ces 6 années. Et donc, c'est toute la responsabilité de se demander mais comment on peut faire aujourd'hui pour accélérer notre changement d'échelle, travailler mieux en coalition avec d'autres acteurs qui sont sur des initiatives similaires, en tout cas qui convergent dans l'intention, pour essayer de contribuer à changer le système en profondeur.
Voilà 6 ans que j'ai rencontré Mathieu Dardaillon pour une première interview. À l'époque, il était encore étudiant. Quelle fierté de voir aujourd'hui comment il évolue. Il a fondé Ticket for Change et publie aujourd'hui un livre où il partage tous ses acquis. Si vous voulez découvrir vos talents, passer à l'action, mettre du sens dans vos vies, ce podcast est pour vous. Il est réalisé dans le cadre de la France des solutions, porté par Reporters d'Espoir, une opération destinée à promouvoir le journalisme de solutions et l'information qui donne envie d'agir, avec 50 médias, Impact Positif et partenaires. Merci infiniment de nous suivre pour cette 3e saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 2, Andiamo. Bonjour Mathieu Dardaillon.
Bonjour Sylvia.
On est ravis de te recevoir dans Impact Positif. Tu es un entrepreneur social depuis toujours. Tu as fondé Ticket for Change il y a 6 ans. Ticket for Change propose à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs de découvrir leurs talents, de les activer, de provoquer chez eux le déclic nécessaire pour un passage à l'action. Alors, mais pas n'importe lequel, hein, celui qui permettra de répondre aux nombreux défis qui se posent aujourd'hui, sociaux et environnementaux. Alors vous avez plusieurs programmes, on va voir tout ça. Pour ton impact et tes actions, tu as été primé par la France S'engage, tu as gagné le prix du Google Impact Challenge, tu as intégrer les Fellows Ashoka, c'est une fédération internationale très sélective hein, d'entrepreneurs sociaux. Et tu viens aussi de publier chez Alizio une réédition d'Activer vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est une bible hein, un peu pour faire le point, se lancer. Tu détailles votre méthode chez Ticket for Change. Il y a même des exercices pratiques, un carnet d'exploration. On va revenir sur tout cela. Mais tout d'abord, Mathieu, tu as 30 ans, je crois, si je ne me trompe pas.
31 maintenant.
31, d'accord, tu as 31 ans. Tu représentes vraiment cette génération tournant à mes yeux, celle qui a dit stop. Nous, on ne veut pas que de l'argent, on veut également du sens. Et cela se ressent aujourd'hui très fortement dans toutes les générations. Est-ce que tu vois cela aussi comme ça ou tu te sentais plutôt seul quand tu t'es lancé dans cette aventure ?
Il y a 10 ans, quand avec quelques amis, on était sur ces réflexions-là, ces questionnements, comment donner du sens à nos vies et de faire de l'argent un moyen et pas une finalité dans nos parcours professionnels, effectivement, on se sentait un peu seul. Mais je crois que c'est le propre de tous ceux qui se posent des questions, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, tout l'enjeu, c'est que je crois qu'il commence à y avoir une masse critique, qu'il y a probablement 30, 40, 50% des gens qui sont sur ces questionnements-là, mais ils se sentent seuls parce que c'est pas la norme aujourd'hui de penser comme ça. Donc, c'est de plus en plus le sujet, les médias en parlent de plus en plus. Là, avec la crise du Covid, on sait qu'il va falloir réinventer notre modèle de société pour être plus résilient, être plus inclusif, être plus durable. C'est clair que plein de choses ont changé dans 10 ans, mais toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, on se rend compte qu'elles se sentent encore aussi seules au moment de passer à l'action.
Aujourd'hui aussi, alors. Ouais. Alors, tout tourne autour du déclic, hein, à trouver en soi pour agir. Quel a été le tien ? Tu l'expliques d'ailleurs dans le livre, tu as eu la chance finalement de te questionner très tôt, hein, de te lancer tout de suite, c'est ce que tu venais de dire, sans passer par une carrière en entreprise. Comment résumes-tu ton déclic ? Un ensemble de rencontres, de réflexions, d'opportunités ?
Ouais, c'est difficile à résumer parce que je pense que c'est une somme de choses. C'est des lectures. De livres qui m'ont beaucoup inspiré quand j'avais 18-20 ans. C'est des rencontres de pionniers qui montraient la voie et qui montraient qu'une autre économie était possible, qu'on pouvait avoir un impact social, environnemental, tout en étant performant économiquement, et que c'était possible, qu'une autre voie était possible. Et c'est ces personnes aussi qui m'ont donné envie de moi aussi d'essayer de contribuer à cette économie-là. Et puis c'est des réflexions personnelles de comment on peut trouver sa place dans cette nouvelle économie à partir de ses talents. C'est tout le sujet de Ticket for Change, c'est aider chacun à cheminer. Mmh. Moi, c'est un cheminement personnel qui m'a pris 3, 4, 5 ans pendant mes études, en parallèle de mes études. Ouais. Et donc, c'est une somme de choses.
Pendant tes études, tu t'es déjà mis en mouvement.
Oui, c'est ça. Pendant mes études, j'ai utilisé ce temps-là pour apprendre le plus de choses de par mes cours, pour essayer plein de choses dans la vie associative, pour essayer aussi des expériences en entreprise. J'ai quand même fait des expériences en grand groupe aussi pour comprendre le système et comment il fonctionne. Avant de changer quelque chose, je pense que c'est important de comprendre comment il fonctionne en profondeur. Aller à plein d'événements, s'enrichir, lire, regarder plein de vidéos dans le domaine, c'est ça qui m'a aidé pendant 3-4 ans à engranger peut-être des connaissances dans ce domaine-là pour, à la fin, essayer de trouver ma place. Ce qui a été un déclic pour moi, peut-être plus concrètement, à la fin, au moment du passage à l'action, c'est une inspiration en Inde que j'ai eue. J'ai participé à un événement qui s'appelle le Jagriti Yatra, c'est-à-dire voyage éveil en Indie, 15 jours autour de l'Inde, emmener 450 jeunes dans un train à la rencontre d'acteurs de changement. À ce moment-là, j'étais au bout de 3-4 ans de réflexion et je me suis dit ce jour-là, bingo, c'est ce truc-là qu'il faut qu'on adapte en France. Il y a un concept hyper intéressant d'aider les jeunes à cheminer, à trouver leur voie et à être le changement qu'ils veulent voir dans le monde. C'est comme ça qu'on a initié Ticket for Change. Après, ça a beaucoup évolué depuis 6 ans. Mais voilà, c'est, à un moment, j'avais trouvé... c'était une évidence pour moi que c'était ça que je voulais contribuer à faire.
Et puis, tous tes petits carnets aussi, hein, parce que tu le dis dans le livre, tu ne te balades jamais sans ton carnet. Tu t'en as rempli des dizaines et des dizaines. Et c'est important, finalement, d'avoir toujours un carnet sur soi, d'écrire.
Oui, exactement.
Et de pouvoir rien lire régulièrement pour refaire le point.
Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais effectivement, j'ai trouvé une valeur immense à noter tous ces questionnements. On peut se sentir seul, comme on le disait, au moment où on pense ces sujets-là. On peut se sentir un peu décalé par rapport à la société, aux attentes de nos parents, de nos profs, de nos proches, de nos amis, etc. Et le fait de noter par écrit un peu le cheminement de sa pensée, ses aspirations, de ce qui, en fait, ce vers quoi on veut aller, sans que ce soit toujours très concret, de donner des intentions comme ça. Avec le recul, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit il y a quelques années, c'est devenu ma réalité aujourd'hui. Donc je suis vraiment... ça a été une de mes méthodes, c'était d'écrire ces réflexions. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elles ont créé le chemin derrière.
Alors, quand je lis ton livre, j'entends aussi deux speeches très connus, hein, celui de Steve Jobs devant les diplômés de Stanford et celui d'Emmanuel Faber devant les étudiants de HEC. Il écrit d'ailleurs ta préface de ton livre. Ce sont deux figures, deux hommes qui t'ont principalement inspiré, enfin en tout cas particulièrement inspiré.
Steve Jobs, je le trouve très inspirant sur ses messages, on va dire, de prendre sa vie en main, d'oser, etc. Après, sur sa vie professionnelle et ce qu'il a construit moins, enfin, je veux dire, de l'entreprise qu'il a construite moins, c'est pas ça qui m'inspire, c'est les messages qu'il peut véhiculer. Oui. Emmanuel Faber, je le trouve très inspirant du cheminement qu'il mène de là où il est, à la tête d'une multinationale, pour essayer de transformer... de là où il est, contribue à transformer le capitalisme pour le rendre plus responsable. Il y a plein d'autres parcours qui m'ont inspiré, d'entrepreneurs sociaux, de militants, etc. Mais effectivement, Emmanuel Faber, de là où il est, je trouve extrêmement inspirant et courageux.
Alors, on ne va pas tout dévoiler, on va laisser les auditeurs avoir envie d'acheter le livre et surtout de l'offrir. Mais on va quand même essayer de comprendre la méthode sur laquelle vous vous appuyez pour faire en sorte de trouver sa légende personnelle, son chemin, ou encore son ikigai. C'est un concept japonais qui a inspiré votre pédagogie chez Ticket. Alors, tout ça, si je puis dire, autour de trois phases. Une phase d'inspiration, d'introspection, puis de passage à l'action. Comment l'as-tu mise au point ?
Alors, c'est avec des experts en leadership, en transformation, en croisant différents modèles, et puis par l'action, en testant, qu'on est arrivé à cette méthode-là. Nous, tout notre métier chez Ticket for Change, c'est d'accélérer le passage à l'action entre des personnes qui ont envie d'avoir un impact positif dans le monde, de changer le monde à leur échelle, et on les aide à passer à l'action et d'en faire leur métier, leur job au quotidien. Tout ça, ça demande un cheminement sur le passage à l'action. Et du coup, effectivement, il y a ces trois phases-là. C'est important d'abord de s'inspirer, de découvrir que c'est possible et de déconstruire des schémas de pensée comme quoi ce ne serait pas possible. Pour moins se sentir seul, pour se donner l'énergie d'y croire. Et c'est important d'apprendre des nouvelles choses et de désapprendre aussi des schémas. La deuxième phase, c'est une phase d'introspection. C'est après avoir vu différents modèles dans différents secteurs, dans différents pays, dans différentes conditions, d'essayer de retenir qu'est-ce que j'en retiens moi. en quoi ça résonne chez moi, quelles sont mes aspirations profondes, mes valeurs, mes intentions, à quoi je veux contribuer, où est-ce que je sens que je peux apporter de la valeur, qu'est-ce qui va me donner de l'énergie. Donc tout ça, c'est un cheminement, et l'outil de l'ikigai est très aidant pour ça. Et enfin, la finalité, c'est le passage à l'action. Donc on a développé des pédagogies pour ne pas rester à l'intention, mais justement transformer cette intention en action. Chez Ticket for Change, on accompagne trois grands parcours d'engagement. Celles et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, ouais, à impact positif, qui veulent lancer des projets à impact social, environnemental, et qui veulent en vivre. Aussi, on accompagne ce qu'on peut appeler des intrapreneurs ou des personnes qui vont essayer de changer les entreprises de l'intérieur, donc de là où ils sont, essayer de changer les modèles. Et enfin, des personnes qui vont être en reconversion vers des métiers qui auront plus de sens pour eux.
Alors, on se connaît depuis longtemps, hein, car tu as fait partie, avec ton associé Jonas Guyot, de la première saison de Tous acteurs du changement, la chronique que je tenais sur LCI pendant 5 ans. C'était en 2014, tu venais de publier ton premier livre qui relatait tes rencontres avec des entrepreneurs sociaux en France et à l'étranger. Et tu m'avais justement parlé de Ticket for Change lors de cet échange, hein, vous y étiez alors à quelques mois du lancement. Quand tu repenses à cette époque, tu te dis quoi?
Ouais, déjà, c'est des bons souvenirs. J'ai un super souvenir de ce moment-là. C'était en mai 2014. Je me dis qu'on est, je suis et nous sommes incroyablement fiers du parcours, que cette initiative Ticket for Change, elle nous a dépassés, mais aussi par sa nature, parce que le but, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux gens. Et donc, par essence, on crée des pédagogies pour que chacun trouve son potentiel, l'active et agisse sur des grands enjeux de société. Et du coup, on a créé une fabrique acteurs de changement qui nous a dépassés, parce qu'un peu partout sur les territoires, des formidables histoires se sont mises en mouvement. Donc ça, c'est de la fierté. Et en même temps, de se dire que le monde, il n'a pas forcément avancé dans le bon sens pendant ces 6 années. Ouais. Et donc, c'est toute la responsabilité de se demander mais comment on peut faire aujourd'hui pour accélérer notre changement d'échelle, travailler mieux en coalition avec d'autres acteurs qui sont sur des initiatives similaires, en tout cas qui convergent dans l'intention, pour essayer de contribuer à changer le système en profondeur. Et donc là, ça nous appelle à être imaginatif, ingénieux, parce qu'on est un peu sur une course-poursuite. Hein. Je pense qu'on vraiment, on a 5 ans, nous, dans la société, pour inventer un nouveau modèle de société, parce qu'on voit bien qu'il y a le compte à rebours du climat, le compte à rebours de la biodiversité, le compte à rebours des inégalités et du sentiment d'exclusion. On sent que si on ne réinvente pas la manière dont fonctionne notre société et notre modèle économique, on est un peu sur une poudrière et ça va péter dans les 5 ans. Donc on a un peu cette course contre la montre. Ça nous appelle à accélérer notre impact tout en prenant soin, je pense que c'est très important, de nous, du chemin et de ralentir à titre personnel aussi pour ne pas se cramer. Ça peut être hyper énergivore, et donc on est vraiment sur comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact tout en prenant soin aussi des forces vives qui permettent ces aventures-là.
Alors avec Ticket for Change, vous avez sensibilisé 70 000 personnes, 1400 entreprises sociales sont passées par vous, dont Yuka, Meet My Mama, qu'on a invité d'ailleurs dans ce podcast, mais également d'autres, hein, c'est un beau palmarès. Vous en êtes à la 7e année, j'allais dire 7e édition, mais comme il y a plusieurs programmes, c'est plutôt à la 7e année. Alors comment est-ce que ça a évolué justement dans le temps? Au départ, c'était un Tour de France, hein, concentré, vous emmeniez 50 personnes avec vous. Comment vous avez décidé finalement au fil des années de changer un petit peu et de développer surtout?
Effectivement, si on essaie de retracer le chemin, mais très rapidement pour faire simple, on a commencé par le tour qui à l'époque accompagnait des entrepreneurs sociaux et environnementaux à passer à l'action. Derrière, c'est notre programme historique. Maintenant, il s'appelle le Parcours Entrepreneur. Donc chaque année, une 50aine de porteurs de projets sont accompagnés. On a aussi développé, on a structuré notre offre de sensibilisation avec des podcasts, des soirées, notamment en région, dans tous les territoires, grâce à nos connecteurs qui sont bénévoles. On a développé des offres pour mieux découvrir son potentiel avec le livre que l'on mentionnait, mais aussi l'exploration, qui est un format de 2 jours pour aider à faire des reconversions. Et puis, il y a tous les programmes de passage à l'action qu'on a développé aussi, notamment en entreprise avec Corporate for Change, le parcours entrepreneur dont je parlais. Donc on a solidifié notre offre.
Avec un MOOC aussi. Hein,
Et le MOOC que j'ai pas mentionné, mais qui est un programme de 2015 et qui a énormément de participants, et on a énormément d'excellents retours MOOC Devenir entrepreneur du changement qu'on a fait avec HEC. Ça, c'est notre offre, et notre but maintenant, c'est de la rendre la plus accessible au plus grand nombre en essaimant sur les territoires. En parallèle, on se dit que C'est important, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et on veut contribuer à un mouvement plus grand aussi, en coalition avec d'autres, pour essayer justement de faire changer le système à l'endroit aussi de peut-être d'influencer les politiques publiques, avec aussi de sensibiliser le plus grand nombre sur un changement culturel. Donc il y a développer nos programmes, les essaimer, mais aussi on veut contribuer à un mouvement plus large autour de nos sujets, des carrières impact, des métiers de la transition écologique et sociale.
Donc du coup, Ticket for Change dans 5 ans, quand on voit que de nombreuses entreprises finalement veulent s'attaquer à ces problèmes de société, d'environnement, il y a la loi Pacte aussi qui va changer les choses avec la raison d'être et les sociétés à mission qui commencent à être, on va dire pas nombreuses, mais en tout cas il y en a de plus en plus. Donc Ticket for Change dans 5 ans, si tu devrais le résumer là aujourd'hui?
Mais on espère que Ticket for Change a permis à chacun d'avoir accès, s'il le souhaite, d'avoir les bons outils pour s'orienter, se poser les bonnes questions, pour pouvoir mettre son énergie et ses talents au service de nos enjeux de société urgents et importants. De réinventer son métier ou de créer des nouveaux métiers qui contribuent à la transition écologique et sociale. Donc nous, on veut rendre ces pédagogies, cette idée-là, ce message que c'est possible, et ces pédagogies accessibles au plus grand nombre. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus aussi travailler avec les acteurs publics, demain peut-être l'éducation nationale, Pôle emploi, etc. Parce qu'il faut rendre accessible, c'est pas en Ticket for Change en grandissant pas à pas, année après année, il faut aussi beaucoup plus travailler en partenariat pour essaimer nos pédagogies le plus largement possible. Ce qu'on fait aujourd'hui avec des associations partenaires comme Startup de Territoire en essaimant dans les territoires, on a besoin de le faire avec plus de partenaires stratégiques.
Alors pour se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat, il faut aussi avoir des qualités de leader, de rassembleur, il faut avoir la capacité de motiver des troupes. Emmanuel Faber, le patron de Danone, le dit dans l'introduction de ton livre, il a été frappé par l'authenticité de ton questionnement, l'essentialité de ta démarche, une soif de comprendre, aucune complaisance, dit-il, une belle empathie et pas de barrière mentale. Est-ce que c'est donné à tout le monde, finalement, d'être un leader ?
Déjà, c'est pas facile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut faire preuve de leadership, effectivement, au moment de lancer un projet. Je pense que chacun a une part de leader en soi. C'est toute la démarche de Ticket for Change. Chacun a des talents. Par contre, je crois qu'il n'y a pas qu'un modèle de leadership. Il n'y a pas qu'une forme de leader. Donc chacun a un potentiel et chacun a des forces naturelles. C'est ça qu'il faut trouver. Certains vont être charismatiques quand ils vont prendre la parole. D'autres vont être plus dans l'empathie et en questionnant l'autre, ils vont l'amener à avoir envie de faire quelque chose. Il y a différentes manières d'être un leader. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Mais oui, je pense que chacun a un potentiel de prendre sa vie en main, de mener des projets dont il rêve et d'emmener les autres pour poursuivre ces projets-là et de faire des aventures collectives. Après, à chacun de trouver sa propre voie à partir de ses forces naturelles.
Alors justement, tu parlais à l'instant de talent. Vous, votre obsession à Ticket for Change, c'est le gâchis de talent, justement. On passe 80 000 heures de notre vie à travailler, écrivez-vous. Alors, quand fait-on finalement de toutes ces heures passées au boulot? Vous avez aussi fait des études par le passé pour un peu voir c'était quoi l'état des lieux. 94% des Français qui déclarent avoir envie d'agir. Et sur 100 Français, 64 qui ont envie d'agir, mais qui ne le font pas. On imagine que ça a vraiment conforté à Ticket for Change cette idée de creuser ce sillon.
Mais oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de là, en plus, dans la période que l'on traverse, c'est on se rend compte qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande que le système dysfonctionne, qu'il y a des problèmes sociaux, environnementaux, que c'est maintenant qu'il faut agir. Le problème est au niveau du passage à l'action. Donc il y a une prise de conscience, les gens ont de plus en plus envie. Le problème, il est au niveau du passage à l'action, et nous, on focalise sur le passage à l'action dans la vie professionnelle, parce qu'on estime que c'est un des leviers qui est le plus important pour changer le monde, et qu'on utilise, dont on parle trop peu, c'est-à-dire qu'on va parler d'être consommateur, c'est-à-dire de choisir, par ses choix de son consommation, d'essayer d'amener un monde meilleur, ou alors dans sa vie personnelle, en aidant, en étant bénévole, etc. Ce sont des choses qui sont absolument essentielles, mais nous, on pense qu'on parle trop peu d'un sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des 80 000 heures qu'on passe dans nos vies à travailler. On va mettre toute notre créativité, nos compétences, notre énergie au service de choses qu'on questionne trop peu. Et donc, si on change la finalité, la manière de faire de ce travail-là, si on réinvente le travail et le sens qu'on lui donne, je pense que c'est comme ça, nous pensons chez Ticket for Change, que c'est comme ça qu'on pourra transformer le système en profondeur. Il faut inventer des nouveaux emplois, transformer les emplois existants. C'est comme ça qu'on va changer l'économie, en quelque sorte. Si on ne change pas les modèles économiques et les emplois, on créera toujours quelque chose à deux vitesses, l'économique d'une part, et puis les sujets socio-environnementaux d'autre part. Il faut réconcilier, notamment en transformant le travail.
Il faut s'aligner, en fait.
Faut réaligner les sujets économiques, socio-environnementaux, et je pense que le travail est un moyen de le faire. Chacun, à un niveau individuel, peut contribuer à quelque chose qui est systémique, en quelque sorte.
Tu parlais tout à l'heure de Corporate for Change, hein, c'est-à-dire que vous avez inauguré ce programme, hein, qui se passe au sein des entreprises, c'est-à-dire chaque collaborateur qui peut finalement devenir un intrapreneur. Est-ce que ça a été facile de proposer cela? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont plus mûres pour laisser plus de champ libre aux collaborateurs?
Aujourd'hui, je crois que les entreprises, pareil, dans la même veine, il y a une prise de conscience qui est importante. Peut-être pas de toutes les entreprises encore, mais d'une grande majorité aujourd'hui, je crois qu'elles ont compris qu'elles doivent changer leur modèle en profondeur, parce que c'est pas des entreprises qui sont toutes seules dans un territoire ou dans le monde. Elles sont interconnectées avec la société et avec les enjeux sociaux, environnementaux qui les touchent et les impactent directement. Avec les aspirations de leurs collaborateurs qui veulent travailler dans des entreprises qui ont du sens, avec les aspirations de leurs clients qui veulent acheter différemment, de consommer de manière responsable. Les actionnaires aussi interrogent l'entreprise sur leurs impacts. Et donc elles savent qu'elles doivent se transformer. Le problème, encore une fois, c'est sur le comment, c'est sur le passage à l'action. C'est le chemin qui est difficile. C'est toute cette transformation, et c'est ça qu'on cherche à accompagner en donnant l'envie. C'est la même méthode, hein, adaptée, en donnant envie, en permettant à chacun de voir dans l'entreprise comment il peut contribuer à ce changement-là, et en aidant concrètement à passer à l'action et à transformer les modèles.
Est-ce que la crise du coronavirus, elle a bousculé ton modèle, comme pour un certain nombre d'entreprises d'ailleurs, ou est-ce que, comme beaucoup d'entreprises sociales, eh bien, ça t'a rendu plus fort, plus résilient ?
Probablement un peu des deux. Alors d'une part, il y a plus de demandes. Ça veut dire que le questionnement du sens de son travail est encore plus prégnant aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est devenu un petit peu un sujet de vraiment d'un très grand nombre de personnes. Quelle est l'utilité sociétale de mon métier? Pourquoi je fais ça tous les jours? Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été accéléré avec la crise, le confinement. Dans le même temps, évidemment, c'est plus compliqué pour notre modèle économique et c'est compliqué pour faire de la formation et des grands événements qui vont inspirer, créer des émotions, créer des expériences transformatrices. Donc ça, on a dû adapter nos activités, évidemment, en développant les programmes à distance, ouais. Le numérique. On a toujours fait des programmes à distance et du numérique, mais on croit vraiment à l'alliance des deux, des moments en présentiel pour créer des communautés agissantes fortes. Donc c'est vraiment important de garder les deux piliers. On espère que on pourra le refaire dès que possible.
Oui, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. J'en reviens à ton livre, Activez vos talents. Tu as raconté que tu as été étonné par l'impact de ce livre. Hein. Tu as reçu des courriers, des témoignages. Et c'est aussi cela finalement qui t'a convaincu de rééditer.
Oui, c'est... Alors j'avais des bons espoirs, des espérances d'avoir quelques retours comme quoi le livre aurait été utile. Mais c'est vrai que j'ai été surpris par la diversité des retours des personnes qui l'avaient lu, qui l'avaient utilisé. Je crois qu'il y a deux manières de l'utiliser. Soit le lire, qui est en soi une utilisation, et aussi un très grand nombre de personnes qui ont fait les exercices, qui ont cheminé. Et là, ça prend plus de temps, pas se mentir, mais un an après, des gens qui me livraient qu'ils avaient fait des changements radicaux dans leur voie professionnelle, qui se sentaient plus alignés, qui me remerciaient pour ça, que ça leur était vraiment utile. Donc ouais, j'ai été ému, touché, ça m'a donné envie de le mettre à jour, de le simplifier à certains endroits, de le renforcer à d'autres, à partir de retours de ces lecteurs-là.
Ouais, parce que c'est vrai que si on veut le faire sérieusement, il y a des exercices, etc., il faut s'y mettre, hein. c'est pas simple. C'est quoi la différence entre la première et la deuxième édition? Donc t'as simplifié, qu'est-ce que t'as changé?
Alors il y a des passages qui ont été simplifiés, allégés. Il y a des témoignages de lecteurs du coup qui disent comment ils ont utilisé les outils et pourquoi ça leur a été utile. Je pense que c'est intéressant pour les lecteurs qui le lisent de comprendre comment d'autres l'ont utilisé. Il y a une postface, on a beaucoup parlé de la préface d'Emmanuel Faber, il y a une postface magnifique de Satish Kumar, ouais, fondateur du Schumacher College, qui est un activiste écologique, un sage indien. Principalement, c'est ça les grandes nouveautés. Donc, allégé et renforcé avec une postface. Et pardon, et non, il y a un carnet d'exploration,
oui,
qui est un petit peu
fait
la synthèse des différents outils. Donc, en fait, il y a 12 étapes qui sont proposées dans le livre pour cheminer et trouver sa propre voie d'acteur de changement. Et il y a un outil, le carnet d'exploration, qui est une invitation à le suivre de manière simplifiée à la fin. Donc, voilà, il y a aussi cette proposition-là.
En tout cas, on sent que c'est vraiment un concentré de tout ce que tu as pu. Tu as vraiment tout donné. Dans ce livre, t'as tout mis et c'est vraiment très efficace en tout cas. Bravo Mathieu. Alors c'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, surtout dans cette période si particulière ?
Je se reconnecter en profondeur à ses intentions et ses intuitions. Ça veut dire que oui, la période est complexe. Peut-être son entourage va le dissuader. C'est pas forcément très rationnel de le faire maintenant. Et en même temps, qu'est-ce qui fait sens voilà, où est-ce que l'intuition guide cette personne? Quelles sont ses aspirations profondes? Et d'écouter cette petite musique intérieure pour avoir le courage justement de, parce que c'est pas facile hein, de lancer un projet ou même de faire un. De nouveaux choix professionnels, mais du coup d'aller interroger en profondeur ses aspirations et de se demander de quoi cette personne sera fière dans 5 ou 10 ans. Et de vraiment questionner c'est quoi la réussite pour cette personne. Je pense que, voilà, essayer de se projeter dans le futur, de se demander de quoi cette personne sera fière, qu'est-ce qui est la réussite pour soi, individuellement, je pense que ça peut aider du courage à faire des choix qui peuvent être compliqués à court terme.
Quel conseil aurais-tu aimé, toi, avoir au début de ta carrière ?
Je pense que le meilleur conseil, je l'ai eu. Mon premier et mon principal mentor, ça a été Arnaud de Ménibus, fondateur d'Entreprendre Plus, qui est partenaire fondateur de Ticket for Change. Dès qu'il m'a rencontré, il m'a dit ce conseil-là, qui est de dire je crois en toi, je crois en ce projet, et on va te donner les moyens pour que vous ayez les moyens de trouver la meilleure équipe possible. Donc de s'entourer. La meilleure équipe et les meilleurs experts pour construire les pédagogies. Donc le conseil, c'est de s'entourer. C'est de ne pas être seul. C'est de s'entourer de personnes qui vont donner de la valeur, de la compétence, de la profondeur au projet et qui vont nous donner de l'énergie au quotidien. Je pense que c'est essentiel de croiser les deux. Des gens qui vont donner de la valeur en profondeur et qui vont, dans les moments durs, on va être heureux de les retrouver. Ils vont nous donner de l'énergie dans les moments difficiles. Ils vont nous tirer vers le haut, ils vont nous inspirer. Et je pense que la réussite de Ticket for Change, c'est beaucoup lié aux personnes engagées au quotidien.
Arnaud Ménibus, à qui tu rends hommage dans ce livre, et c'est vrai qu'il t'a contacté à la suite d'un article que tu avais écrit à l'époque, c'était sur le blog de l'Express, et c'est comme ça que tout a commencé. Ma prochaine question, c'était le ou la mentor que tu aurais voulu avoir, donc tu en as eu un en tout cas, mais est-ce qu'il y a une autre personne que tu aurais rêvé de pouvoir...
Je pense que un Gandhi, un Luther King ou un... ou peut-être un Obama d'une certaine mesure. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, notamment pour les entrepreneurs sociaux, l'économie à impact, c'est de comprendre comment ce qu'on expérimente à petite, moyenne échelle sur le terrain peut inspirer des politiques publiques, peut inspirer des changements systémiques au niveau de changement des lois, de la culture à très grande échelle. Et donc je pense qu'il faut s'inspirer de... j'aurais aimé pouvoir recevoir des conseils. Voilà, comment ces innovations du terrain qu'on fait leurs preuves, comment on peut les systématiser, les démocratiser, parce que trop souvent les politiques publiques, elles sont descendantes et elles essaient de trouver preneurs sur les territoires. En fait, il faudrait faire une démarche inverse, de découvrir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'on doit faire changer d'échelle, et c'est ça qui devrait nourrir les politiques publiques. Et donc je pense que c'est ça que qu'il nous faudrait pour essayer, je dis ça pour Ticket for Change, mais pour tous les mouvements de l'entrepreneuriat social, de l'activisme, etc. Comment est-ce qu'on peut arriver à transformer le système en profondeur ?
Ça s'améliore quand même. Je veux dire, il y a des discussions, il y a des dialogues, il y a des ponts.
Oui, absolument, ça va dans le bon sens, mais ça ne va pas à la vitesse de l'urgence qui est celle qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, on a 5 ans pour inventer un modèle de société, un modèle économique en profondeur. Il y a des discussions, mais il ne faut pas des discussions. Il faut des actions concrètes.
Tu ne serais jamais devenu ce que tu es si...
Si je n'avais pas pris du temps pour explorer, faire des pas de côté pour explorer. Ça veut dire que, rationnellement, j'étais dans mes études...
Tu as pris tellement de temps, finalement, parce que pendant tes études, tu es devenu entrepreneur.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Tu n'avais pas encore fini tes études, tu étais déjà entrepreneur.
C'est vrai. Mais j'ai repoussé la fin de mes études. En fait, j'ai fait 2 années de césure à un moment, une année d'expérience professionnelle en entreprise et une année avec Jonas qu'on mentionnait, pour prendre le temps de découvrir le monde, de comprendre le monde de l'entrepreneuriat social aux Philippines, en Inde, au Sénégal, passer 3 mois avec des entrepreneurs sociaux. À la limite, on aurait pu faire ça ou autre chose, mais de prendre le temps de cheminer et de me demander qu'est-ce qui comptait vraiment pour moi. Et de prendre ce temps-là, ça m'a aidé à trouver la réponse vite. Et du coup, après, effectivement, j'étais dans l'action avant la fin de mes études. Mais je n'aurais pas fait Ticket for Change si je n'avais pas pris ce temps de cheminement, d'introspection, un peu de programme, un peu de...
Si tu n'étais pas déjà monté dans ce train en Inde, tu n'aurais jamais...
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je ne me serais pas donné l'opportunité de faire des pas de côté, de découvrir des choses qui n'étaient pas sur le chemin tout tracé.
Ton plus bel échec hein.
Alors, il y en a plein, parce qu'au quotidien, on lance des projets qui ne marchent pas. Je pense que c'est... Je ne parlerai pas de plus bel échec, mais la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait, on essaie de contribuer à quelque chose de systémique qui change, qui est très complexe. Encore le modèle qu'on fait aujourd'hui, Ticket for Change, on essaie, c'est très complexe encore à expliquer et à mesurer, à valoriser l'impact. On sait les impacts que ça a sur des personnes qui font des parcours de vie différents, qui vont créer des projets à impact social, environnemental, qui vont créer des emplois, etc. On a un mal fou à raconter ça de manière simple pour valoriser tout le chemin et toute la valeur que ça crée pour la société. Donc je ne sais pas si c'est le plus grand, c'est pas le plus grand échec, mais c'est le plus gros axe de travail et je pense que c'est le cas pour plein d'entrepreneurs sociaux qui sont sur différentes thématiques et en fait on a un impact qualitatif qui peut se retrouver dans certains chiffres. On l'a mentionné, nombre de personnes accompagnées, etc. Mais ça ne décrit pas toute la valeur que ça apporte à la société.
Ça, vous y travaillez, justement.
On y travaille, mais même après 6 ans, même après avoir fait 3 mesures d'impact en profondeur, même là, on en a une qui va sortir. Je crois que c'est l'endroit où, en fait, c'est extrêmement complexe, dans un monde qui va trop vite, où il y a trop d'informations, d'essayer de raconter quelque chose qui est en profondeur, avec du qualitatif, de manière simple.
Mathieu, une qualité essentielle pour entreprendre aujourd'hui ?
Le courage, l'audace aussi, la détermination, parce que c'est voilà, ça demande du courage au quotidien, faut persévérer. Il y a plein de gens qui vous diront que ça marchera pas, que ça n'a pas de sens, que c'est pas possible. Donc il faut être capable, il faut avoir une certaine force intérieure et des ressources dans son équipe, dans ses mentors, pour avoir toujours la force de s'accrocher et continuer.
Alors le temps est un bien précieux, hein. Quand tu en as un peu, qu'est-ce que tu fais ? Tu racontes notamment dans ton livre que tu as décidé de faire un break de 5 semaines à un moment donné, dans ta carrière aussi, pour faire un petit peu le point.
Oui, le temps, je crois que c'est aujourd'hui ma ressource la plus précieuse, c'est ça dont je manque le plus, c'est ça que je veux... ça fait quand même 4-5 ans que j'ai délégué énormément d'activités à différentes personnes de l'équipe, donc j'ai beaucoup plus de temps quand même depuis 4 ans. J'ai besoin de temps, personnellement, pour me réinspirer, me ressourcer, justement poursuivre ce chemin d'alignement, être sûr que je suis à la bonne place. Et c'est dans ces temps de jachère que je trouve les idées créatives dont j'ai besoin pour trouver des manières ingénieuses d'avoir plus d'impact.
Donc, quand j'ai toujours, ou parfois c'est un peu comme un écrivain devant la page blanche. Hein,
je ne les ai pas si je ne prends pas le temps. Ça veut dire que dans la course du quotidien, dans l'enchaînement des rendez-vous, dans les déplacements qui vont dans tous les sens, si on cherche à innover, on fait des petites innovations incrémentales. Alors, on va dans le bon sens, on fait plus, c'est mieux de 5%, 10%, voilà. Mais on est essoufflé et on ne change pas la manière de voir les choses. À chaque fois qu'on a eu des idées qui ont vraiment permis de passer un cap, c'est qu'on a laissé du vide, on a laissé du temps, on a changé le cadre, on a pris du temps au vert, ou personnellement, j'ai pris du temps au vert. Et donc, c'est ça dont j'ai besoin. Et c'est tout mon chemin aussi, c'est d'essayer d'être dans l'efficacité, l'action, délivrer des actions concrètes, et en même temps, de prendre le temps de souffler à côté, pour justement... penser et essayer d'avoir un temps d'avance sur les grands sujets et pas être pris par le quotidien et la course effrénée.
Que dis-tu à celles et ceux qui t'écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ?
Un des conseils tout simples, c'est de lire le livre qu'on a mentionné. Honnêtement, on a créé Ticket for Change pour vous. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'aurais eu besoin de Ticket for Change pour mon cheminement, pour l'accélérer. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'est-à-dire qu'on répondait à un besoin qu'on avait nous-mêmes et qu'on n'avait pas trouvé comme offre. Donc, on a tout plein d'outils pour s'inspirer, pour cheminer, pour passer à l'action. Une personne qui cherche ça, je l'invite à aller sur notre site internet. Il y a plein de ressources gratuites. Au quotidien, on se bat pour que ces ressources soient accessibles. Donc, n'hésitez pas, ça sert à ça.
C'est toute génération confondue, évidemment.
Ouais.
Merci beaucoup, Mathieu. Où retrouve-t-on Ticket for Change sur les réseaux, on imagine ? Vous êtes présent partout, sur Twitter, Facebook, Instagram, sur Internet. Effectivement, allez voir sur le site Ticket for Change, comme ça vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, lisez le livre, offrez-le en tout cas. Et merci beaucoup, Mathieu, à toi d'être venu dans Impact Positif. Et je te souhaite bonne route à toi et à toute l'équipe.
Merci beaucoup, Sylvie.
Super.
Trop bien, merci. Merci beaucoup.
Merci à toi. I'm Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Führer pour la prise de son. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Retrouvez-nous dans notre nouvelle rubrique Impact Positif sur lci.fr avec plein d'autres contenus. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, sur mon compte Sylvia Micone, sans oublier Instagram, impactpositif.podcast. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.